BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. Évidemment, on va revenir sur l'impact du coronavirus, notamment sur les entreprises. Ce matin, je recevais Nicolas Dufour de BPI qui nous explique quand même que pour l'instant, les remontées sont plutôt positives. Et là, à 12h30, je recevrai Pierre Pellouzet, il est le médiateur national aux entreprises. Je recevrai aussi Anton Brander, économiste, chef économiste même chez Candrien. Il publie Capitalisme et progrès social, il connaît très bien la Chine. On y reviendra aussi. Et puis dans un instant, alors là, pour le coup, il va très bien, c'est Alain Taravella. Il est président fondateur d'Altaria Cogedim. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Très bonne année 2019. Mais il y a quand même l'annulation du salon du MIPIM. Vous me direz quel impact ça peut avoir sur votre profession ou pas dans un instant. Pour l'instant, c'est Pauline Tadevin qui nous apporte toute l'actualité. Bonjour Pauline.
Bonjour Edwige. Bonjour à tous. Une nouvelle réunion à Bercy ce matin pour mesurer l'impact du coronavirus sur les entreprises de différents secteurs. L'exécutif promet son soutien aux petites et aux moyennes entreprises notamment et la Banque publique d'investissement sollicité. Le patron de la BPI justement était votre invité ce matin, Edwige Chevrillon. Pour l'instant, dit-il, les PME et les ETI françaises, les entreprises de taille intermédiaire, ne font pas état de difficultés financières alarmantes ou alarmistes. C'est ce qu'il a dit ce matin. Les membres du G7 Finance sont prévus de se parler par téléphone dans la journée, comme les banquiers centraux. La Banque Centrale Européenne se dit prête à prendre des mesures appropriées. Elle annonce qu'elle en discutera lors de sa prochaine réunion qui est prévue jeudi dans 10 jours. Du côté de Washington, on assure qu'un traitement pourrait être disponible d'ici l'été.
J'en profite, Paulina, pour dire que demain, mon invité à 8h15 sera justement Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances.
Dans le cas de PSA en particulier, le patron Carlos Tavares rassure. Pour l'instant, dit-il, le groupe a réussi à protéger l'approvisionnement de ses sites industriels européens qui tournent à plein, précise-t-il. Il précise aussi que d'après les autorités chinoises, l'activité de PSA dans la région du Hubei pourrait reprendre la semaine prochaine. Le 11 mars, PSA qui annonce d'autre part un déménagement de son siège de Rueil-Malmaison pour les sites de Vélizy et de Poissy. Ça devrait se faire dans le courant de cette année 2020. Journée de contestation contre la réforme des retraites avec des manifestations à l'appel des syndicats. Depuis hier, Force ouvrière et la CGT ont quitté la conférence de financement. À l'Assemblée nationale, deux motions de censure, une de droite et une de gauche, ont été déposées après que le gouvernement a choisi d'utiliser le 49-3 pour faire passer le texte. Et puis ce grand rendez-vous aux États-Unis aujourd'hui en vue de la présidentielle de novembre, c'est le Super Tuesday, étape déterminante dans la primaire démocrate. 14 États vont voter pour choisir le candidat qui affrontera Donald Trump en novembre prochain. Donc ils vont choisir entre Bernie Sanders, Joe Biden et Mike Bloomberg. Un mot des marchés avant de retrouver Edwige Chevrillon. Le CAC en cette mi-journée est en hausse de 2,28% à 5455 points. Du côté de la parité euro-dollar, 1 euro vaut actuellement 1,11 $, Edwige.
Merci beaucoup, bien sûr, Pauline. On vous retrouve à 12h30. Tout de suite, c'est Alain Taravella, le patron d'Altera Cogedim, qui est notre invité dans le RH.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Groupe de l'immobilier qui a publié ses chiffres, surtout qui montre des très bons chiffres pour 2019. Qu'en est-il pour 2020? Alain Taravella, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, président fondateur d'Altaria Cogedim. Vous êtes, alors vous vous présentez comme le premier développeur dans l'immobilier, troisième promoteur.
Deuxième
maintenant. Vous êtes passé devant qui?
On est passé devant Bouygues.
D'accord, et Nexity reste le premier.
Bien sûr.
Vous avez en ligne
pour
de mire.
Pour l'instant,
en ligne de mire 2020, votre objectif, c'est de doubler Nexity?
Ah non, pas en 2020. Non. Mais à terme, nous visons... Vous savez, le marché sur lequel nous travaillons, c'est un marché de moyen et long terme. Donc moi, j'ai de grandes ambitions pour l'entreprise sur le moyen terme. On va continuer notre construction de logements. Nous sommes à 12 000 logements en 2019. Nous étions à 4 000 5 il y a 4 ans. Donc ça montre une progression. Et il y a un marché absolument immense. Et puis, nous construisons aussi centres commerciaux, bureaux. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous construisons des morceaux de ville. Aujourd'hui, les Français...
Oui.
Les Français veulent des ensembles qui soient humains, où il y ait des commerces, des petits commerces de proximité, où la vie revienne. Et donc, nous, notre spécialité, c'est de faire des morceaux de ville.
Vous nous direz l'impact que ça a. Effectivement, on sent bien qu'il y a une mutation. On change un peu d'époque. Vous nous direz l'impact que ça peut avoir sur ce que vous faites, sur ce que vous construisez. D'abord, cette annonce, le MIPIM, qui est le grand salon de l'immobilier qui a lieu traditionnellement au printemps, il a été annulé pour cause de coronavirus. Il va se dérouler, je crois, en juin. Est-ce que c'est important pour vous? C'est un impact?
Bon, des causes sont... Je n'ai pas à juger des causes. C'est quand même ce sujet du virus est quelque chose d'important. Par contre, le report du MIPIM en juin, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, nous avions un MIPIM qui se passait juste avant les élections municipales. Aucun maire, aucune discussion possible avec eux. Là, ils viendront en juin au MIPIM, on pourra leur présenter des projets, on pourra discuter avec eux et ils auront peut-être plus la tête au développement de leur ville qu'ils ont aujourd'hui.
Ouh là 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 là, est-ce que vous êtes en train de dire que finalement, ça a été fait un peu exprès, pas exprès, mais que le coronavirus est un très bon prétexte pour décaler le MIPIM?
Non,
après
non,
les
non.
élections municipales, parce que c'est vrai, tout est gelé avant les élections municipales. Il y a plus de permis de construire, il y a plus rien, quoi. Donc tout est gelé avant.
C'est pas tout à fait exact. Non, le MIPIM est un salon international où il y a beaucoup de Chinois, des Brésiliens, des Américains. C'est pas avec eux qu'on travaille tous les jours. Nous, on travaille en France. On travaille. Nos interlocuteurs principaux, ce sont les collectivités locales, les maires. Oui. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. Et pour redire les choses, c'est vrai que les maires ont montré pour certains d'entre eux, un certain attentisme avant les élections. Mmh. Et ça va se débloquer après les élections.
Mais et donc tout le monde est content parce que donc c'est une bonne nouvelle, comme vous l'avez dit là, bon, sincèrement, à la Taravena, c'est en juin. Et bien, écoutez, en tous les cas, voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui... L'immobilier, on voit bien que la pénurie d'offres fait que les prix flambent. Qu'est-ce qui a porté votre groupe, que vous avez créé, enfin que j'ai dit existait avant vous bien sûr, mais vous avez créé votre groupe. Qu'est-ce qui a porté votre activité?
Ben, on a plusieurs moteurs et tous les moteurs fonctionnent.
Trois moteurs, oui.
Voilà, tous les moteurs fonctionnent, mais notamment le moteur du logement. Il y a un besoin de logement en France fondamental. Et il y a un besoin de logement en France dans les métropoles. C'est vrai que en région parisienne, entre 70 000 et 100 000 personnes de plus tous les ans à loger. Donc c'est compliqué. Donc là, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et puis, le commerce évolue. Il faut faire des choses autrement. On fait beaucoup plus de commerce de proximité. On fait moins de grands centres commerciaux. Et puis, les bureaux, les méthodes de travail changent. Donc, il faut adapter des immeubles qui étaient mal conçus ou conçus à l'époque, dans les années 50-60. Donc, nous, notre métier, c'est de transformer la ville. Et la ville va se transformer.
Est-ce que en 2019, mais peut-être en 2020, est-ce que vous allez construire très différemment? Parce que on voit bien, du reste, il y a des lois qui sont passées aussi. Maintenant, vous êtes obligé de faire attention à la manière dont vous construisez vos immeubles.
On a toujours fait attention à la matière dont on construisait. Il y a eu des règles dans le passé qui font que maintenant, tous les logements sont BBC, bâtiments basse consommation, donc consomment moins. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, moi, je considère que dans les 10 ans qui viennent, notre enjeu va être effectivement de construire autrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris une participation de 50% dans Woodéum qui construit des logements.
Donc, dirigé par Guillaume Poitrinal, qui fait des
logements en bois.
Des logements en bois.
Voilà, des logements en bois. Donc, pour l'instant, toute petite production en France. Moi, je pense que ça va beaucoup se développer. Et là, nous avons investi. C'est une start-up de l'immobilier dans laquelle nous avons investi, à qui nous apportons de l'argent pour qu'elle se développe. Je pense que c'est un secteur d'avenir.
Et quand est-ce que vous pensez? Parce que le bois, ça fait longtemps qu'on en parle, mais finalement, il est vu ici nous expliquer, il y a deux, trois immeubles. Mais on voit que ça a du mal à prendre. Il y a des réticences sur le fait que ça a pu durer longtemps, que ça va se dégrader.
Il n'y a pas de réticences. Nous avons mis ensemble pour la commercialisation Woodéum et Cogedim. Mmh. Cogedim a une image de marque. Il y a beaucoup de clients qui nous demandent des logements en bois. Il n'y a pas de réticences du côté des clients. Par contre, nous, les constructions en bois que nous faisons, nous sommes obligés d'aller chercher le bois en Autriche. Il n'y a pas d'usine en France. Il faut que cette filière se mette en place. Il y a un besoin extrêmement fort sur ces... sur ce type de construction.
Toute petite question, mais parce que c'est les élections municipales, c'est vous qui l'avez rappelé. Là, on recevait dans BFM Politique Rachida Dati, puis Agnès Buzyn, la végétalisation des immeubles. Pour vous, c'est une plaie parce que ça coûte très cher, l'entretien est compliqué, ou au contraire, vous pensez qu'on peut y arriver?
Vous savez, on peut tout à fait y arriver. Il y a des immeubles magnifiques qui sont faits avec de la végétalisation. Ce n'est pas en logement, c'est en bureau. Nous allons inaugurer notre siège social rue de Richelieu dans trois mois. Nous avons planté. On dit même que la surface de nos espaces verts dans notre immeuble fait de nous le plus grand square du deuxième arrondissement. Alors, c'est vrai, le deuxième arrondissement n'est pas très planté. Mais quand même. Donc, quelque chose que nous avons parfaitement intégré dans nos
coûts. Je disais, progression du chiffre d'affaires à un peu plus de 3 milliards, 3 milliards 100, plus 29%. Comment vous réalisez ça, en fait? Parce que 29%, c'est quand même un gros tiers.
Oui, c'est un...
Enfin, c'est un petit tiers, pardon, mais
C'est significatif.
Grosse progression.
Principalement, forte demande de logement. Je vous ai dit, nous avons triplé notre production de logement en 4 ans. Donc ça se voit dans les chiffres. Ouais. Nous opérons France entière, nous travaillons partout. La marque que j'ai dit, qui est plutôt considérée comme une marque haut de gamme, est quand même la première... nous sommes le premier promoteur du 9-3. Donc nous construisons dans les zones où il y a besoin de faire des logements et les besoins sont immenses.
Ouais. Le commerce, on voit que c'est en train de basculer. Vous-même, vous l'avez souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est rentable? Parce qu'on dit beaucoup que ce sont les commerces de proximité, mais c'est beaucoup moins rentable qu'un hypermarché. Comment est-ce que vous arrivez à trouver le bon équilibre?
Pendant tout un temps, ils se sont fait des commerces en périphérie des villes, avec des prix de revient beaucoup plus faibles. Bon, c'était une époque. Aujourd'hui, nous concentrons sur un autre style de commerce. Le commerce de proximité, vous l'avez dit, c'est moins rentable. Mais comme il est de proximité, nous, ce que nous faisons, nous faisons des péréquations, nous construisons des logements, des bureaux, des commerces. Nous sommes en train de faire, par exemple, une opération à Issy-les-Moulineaux, où il y a 40 000 m² de bureaux, 40 000 m² de logements, 12 000 m² de commerce. Ces commerces peuvent être loués à des prix compétitifs. On fait une péréquation et on fait en sorte que des commerçants gagnent leur vie. Et pour nos clients logement, le fait qu'ils aient des commerces au pied est quelque chose également d'important pour eux. Donc oui, c'est rentable. Ce qui est également rentable que nous faisons aujourd'hui la restructuration avec la SNCF de la gare Montparnasse, donc ce qu'on appelle...
Vous n'allez pas faire la gare de l'Est, hein. Vous savez que finalement le projet est abandonné. Hein.
Nous qui avons la gare de l'Est.
Donc, je pensais au fait de la délocaliser, grand projet de Benjamin Griveaux. Voilà. Non, c'était une pointe d'humour. Donc, gare Montparnasse...
que nous sommes en train de restructurer, c'était quand même une gare particulièrement moche. Nous sommes en train
de dire avec la tour, là on est d'accord.
Ça se fait en tranches et là ça va être un commerce très rentable. Les commerçants en ont besoin et les clients, les usagers du train en ont également besoin.
Oui, on voit que les gares, c'est aussi quelque chose de très rentable, mais on voit que la gare du Nord, on peut avoir quelques difficultés.
Nous n'y sommes pas.
Oui, je sais bien, c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi ça a marché la gare Montparnasse et la gare du Nord, ça bloque? Élection municipale?
Je ne sais pas. Je préfère parler de la
si
gare Montparnasse.
Si vous savez, mais allez-y. Oui.
Non, mais
allez-y.
Non, mais la gare Montparnasse, c'était un besoin. La gare avait besoin d'être restructurée. La gare du Nord, peut-être que le projet ne convient pas. Peut-être que le projet est trop fort.
Bon. Et vous êtes en embuscade. Sur l'offre de logement, on voit bien en termes de réservation, vous progressez. Là où peut-être vos concurrents ne progressent pas. Comment vous expliquez ça?
Je pense que nous avons anticipé un certain blocage de certaines mairies dans la délivrance de permis. Donc on a lancé beaucoup plus d'opérations. Donc nous avons eu plus d'offres que peut-être que les autres. Nous avons des bons produits. Je pense que surtout... j'ai une vraie volonté de développer ce secteur et donc je prends peut-être plus que de risques de d'autres en études, en dépôt de permis de construire. Nous avons plus d'offres et donc nous vendons plus parce que, par contre, il y a une très très forte demande des clients.
Quel est, à Paris, enfin en Île-de-France plutôt, le prix moyen d'un logement construit par Altera Cogedim à la vente.
En région parisienne, notre prix moyen est de l'ordre de 300 000 euros.
Ça veut dire quoi ?
300 000 euros. Vous me demandez le prix moyen, 300 000 euros. Je prends le total du chiffre d'affaires, je divise par le nombre de logements, mais 300 000 euros, c'est une moyenne entre quelques logements à Paris, pas beaucoup, et nous allons construire dans des secteurs plus...
Oui, mais le prix au mètre carré n'est pas 300 000 euros.
Non, 300 000 euros, c'est le prix de l'appartement.
Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je me demandais le prix au mètre carré. Je me suis dit, là, il est en train de... le prix au mètre carré à la vente.
Le prix du mètre carré à la vente varie de 3 500 à...
Mais 4... pas en région parisienne, 3
500 si, 3 500 à 15 000 euros.
Oui. 15 000 euros étant...
En Paris.
En Paris, oui.
En Paris. Même un peu plus.
Oui, même un peu plus, oui. Comment on peut faire pour face à cette pénurie de logements en région Île-de-France, comment peut-on faire ?
Baisser le prix des terrains. Pourquoi on peut vendre parfois à 3 500 ou à 4 000 euros ? C'est que les maires nous obligent à vendre pas cher, nous vendent le terrain pas cher, nous obligent à vendre pas cher et obligent le client qui nous achète pas cher à ne pas revendre, sauf à reverser une taxe supplémentaire dans un certain délai. Donc, ça part du prix du terrain.
Oui, évidemment, c'est tout le problème aussi des logements sociaux, du reste. C'est où est-ce que c'est constructible, pas constructible, mais à quel taux et quel coût pour la mairie. Dernière question quand même. Là, on parlait de la région Île-de-France, de Paris. Dans le reste de l'Hexagone, quelles sont les villes qui sont intéressantes pour Altera Cogedim?
Ce sont les grandes métropoles.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc Bordeaux, Toulouse, par exemple, nous sommes en train de faire à Toulouse un projet important qui s'appelle Montaudran, qui est sur une ancienne piste d'aviation, qui était la piste d'aviation de l'aéropostale. On fait toujours pareil, des logements, des commerces, des bureaux. C'est une ville où il y a un besoin énorme. Il y a un potentiel économique très fort, notamment avec Airbus. Donc, il y a une forte demande. Et là, nous construisons. Mais Lyon, nous sommes dans toutes les grandes métropoles françaises.
Oui, mais je demandais la plus intéressante pour vous.
La plus intéressante aujourd'hui...
En termes de business pour Altera Cogedim. Ouais.
Je dirais que Toulouse est une ville extrêmement intéressante pour nous en ce moment, puisqu'il y a un potentiel de clients fort et le prix n'a pas autant flambé qu'ailleurs.
Et c'est une ville qui a besoin de se rénover beaucoup, en l'occurrence, avec son maire Jean-Luc Moudin, qui va peut-être être réélu, qui est le président de l'Association des maires de grandes villes de France. Ça peut toujours servir. Merci beaucoup, Alain Taravella, d'avoir été avec nous. Donc, 2020, même progression, même ambition, en tous les cas, on va dire.
Même ambition.
Oui.
Même ambition.
Et faire 2020.
Et une adaptation aux circonstances.
Ça veut dire quoi ?
Adaptation, on est dans un climat qui déclenche un certain attentisme. Donc, mais même ambition sur le moyen terme et même ambition sur 2020.
Merci beaucoup, incroyable histoire d'entrepreneur. Hein. Merci beaucoup Alain Taravella d'avoir été avec nous, le président fondateur d'Altera Cogedim. Dans un instant, justement, on va parler de l'impact que ça peut avoir, l'impact économique. On va parler du capitalisme, le capitalisme qui est un peu dans une impasse. On en parle avec le chef économiste de Cendrillon, Anton Brender, qui est notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est l'économiste Anton Brender. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, chef économiste, même chez Cendrillon. Vous êtes un expert du capitalisme, aussi de la Chine. Enfin, vous connaissez en tous les cas très bien cette région-là. Et vous publiez Capitalisme et progrès social aux éditions La Découverte. Vous dites que le capitalisme n'est pas responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il est dans une impasse. Et en même temps, vous nous dites qu'il faut sauver le capitalisme contre lui-même. Est-ce que ce à quoi on est en train d'assister, Anton Brender, n'est pas en train de changer complètement la donne ?
Non, je ne crois pas. La première des choses, c'est effectivement que le capitalisme est aujourd'hui dans une espèce d'impasse. Je pense que ce n'est pas de sa faute. C'est ça qui. C'est,
oui,
c'est,
mais on voit bien aujourd'hui la mondialisation, la globalisation qui fait les grandes heures de la finance et de l'économie. Ben là, on est en train de se dire attention, il faut tout relocaliser. Ça nous évitera d'avoir un coronavirus qui nous tombe dessus.
On va peut-être un peu vite quand même. On va peut-être.
Je sais pas, c'est la question que je
vous
pose.
Et puis par ailleurs, il faut se rappeler que la simple division du travail, ça fait qu'on dépend toujours de quelqu'un d'autre à l'intérieur même de la France.
Quand mais est-ce qu'il ne faut pas revoir cette division du travail ?
Voilà, si on revoit la division du travail, ce qu'on va revoir aussi, c'est ce qui nous a fait gagner beaucoup, beaucoup en termes de productivité et d'efficacité. L'histoire du progrès social, c'est l'histoire de comment le capitalisme a permis, justement, en organisant une certaine division du travail, en produisant en masse, en investissant, il a permis des gains de productivité qui ont été un des facteurs moteurs du progrès social. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ça n'est pas le capitalisme seul qui a été ce moteur du progrès social, mais c'est la pression qu'on a exercée sur lui, c'est les contraintes qu'on lui a imposées. Si aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays développés dans lesquels on est finalement mieux préparé pour résister au coronavirus, en tout cas, c'est ce qu'on espère, eh bien, c'est parce qu'on a mis en place dans ces économies un appareil de santé qui n'existe pas dans la plupart des régions, dans beaucoup de régions du monde, pas dans la plupart. La Chine est un pays qui est en cours de développement, qui n'est pas du tout un pays développé, hein, contrairement à ce qu'on dit souvent, qui en matière de santé a encore pas mal de déficiences.
Oui, on est médiéval, hein.
Alors, complètement médiéval.
Au Moyen Âge. Quand on voit quand même les conditions de santé, les marchés, les animaux vivants, la manière dont
ils sont. Il faut voir où était la Chine il y a simplement 30 ans. Comme on voit arriver chez nous des tas de produits extrêmement sophistiqués qui arrivent produits de Chine souvent, bien on se dit la Chine est un pays extrêmement développé. Non, en moyenne, la Chine est encore un pays qui est en train d'émerger. On parle de pays émergents et on a raison. Un pays comme la Corée est déjà un pays qui a émergé. La Chine est encore loin en termes de niveau de développement moyen de la Corée du Sud. Ceci étant, il y a en Chine, comme dans d'autres économies, des inégalités qui font qu'on a en Chine des gens qui ont énormément d'argent, énormément de ressources et qui vivent dans des conditions tout à fait atypiques, proches des nôtres. Et puis encore, toute une partie de la population chinoise, et comme elle est nombreuse, ça fait des centaines de millions de personnes qui vivent dans des conditions qui ne sont pas médiévales, mais qui ne sont pas du tout les mêmes.
Non, pas les conditions, mais je veux dire honnêtement... En matière de santé, j'étais sur les matières de santé. Alors, juste là, est-ce que vous avez revu vos prévisions à la baisse? Est-ce que vous trouvez que l'OCDE a raison? En même temps, je recevais le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galloux, en disant il faut quand même garder la tête froide.
Ce que tout le monde fait, c'est des simulations selon la durée de l'épidémie.
Un concours de beauté, m'a dit quelqu'un.
Non, c'est pas un concours de beauté. On sait qu'en Chine, par exemple, la production de charbon a baissé de 30 ou 40%. Le charbon, c'est ce qui fait tourner la machine. Donc on sait qu'une partie de la production chinoise, elle est aujourd'hui en train de tourner à sous-régime. On sait que le tourisme, par exemple, c'est complètement arrêté en Chine. Quand vous regardez les transports de passagers, il n'y en a plus. Donc vous savez que l'hôtellerie en Chine est en crise. Tout ça, on le sait. Combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Donc ce qu'on essaie.
Mais vous, Anton Brander, vous êtes sur quel scénario?
Quel scénario? Nous, on n'a aucune idée.
Vous aucune idée, là, vous naviguez
durée.
À vue.
Pardon, on navigue à vue sur la durée. On sait simplement que si en Chine l'activité est paralysée pendant 2 mois ou 3 mois, eh bien, il y aura au minimum, il y aura d'abord des trimestres de croissance qui vont être négatifs, un trimestre de croissance négatif, ce qui s'était jamais vu en Chine depuis très longtemps. Et ensuite, l'activité chinoise, qui va être le PIB chinois, qui peut être 1 ou 2 points plus bas en fin d'année qu'il n'aurait été autrement. Donc, c'est assez facile de jouer avec les chiffres. Ce que personne ne sait, c'est combien de temps l'épidémie va durer? Combien de temps le confinement va être maintenu?
Est-ce que vous redoutez une récession en Italie, en Allemagne, comme l'OCDE ou pas?
Une récession, c'est très technique. C'est juste que l'activité soit négative. Mais vous savez qu'en Europe, on est avec une activité qui est à peine au-dessus de zéro. Oui. Donc il ne faut pas grand-chose pour la faire basculer.
Vous avez raison, tout à fait. Un plan de relance, ça pourrait être efficace?
Il ne faut pas parler de relance, en l'occurrence pour l'instant.
Ce n'est pas moi qui en parle, c'est le ministre que je reçois demain.
Ce dont on a besoin actuellement, c'est d'un soutien.
Des ministres budgétaires.
On a besoin d'un soutien à certains types d'entreprises qui... Vous êtes une PME, vous êtes un restaurant, vous gardez vos employés autant que vous pouvez, vous n'avez plus de clients. Vous faites quoi? Vous avez un problème de trésorerie. Donc ça, ce problème-là, il faut le résoudre. Ensuite, le plan de relance, il faut faire très attention. On pense qu'il faut...
Des mesures de relance budgétaire, voilà.
Non, on a besoin de soutien budgétaire. La relance budgétaire, si l'épidémie s'arrête, la relance, elle aura lieu d'elle-même. Les gens vont revenir dans les restaurants, ça va stimuler l'activité. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de la stimuler deux fois. Par contre, on a besoin d'éviter les faillites. Et donc, les licenciements, et tout ce qu'on pourrait éviter de ce point de vue-là, ce n'est pas un problème de relance, je répète, c'est un problème de soutien. Apporter une aide à ceux qui, sinon, risquent de faire faillite. Et là, bien sûr, ça provoque d'autres problèmes.
Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation ?
Je crois.
Notamment parce que le capitalisme, ce que vous dites très très bien dans votre livre, on a le sentiment qu'il est un peu dans une impasse, même s'il n'est pas responsable de tout, si j'en crois.
Il est dans une impasse.
Si j'ai bien lu.
Il est dans une impasse. Vous avez bien lu. Il est dans une impasse parce qu'on a baissé les bras. C'est-à-dire qu'on a dit on se mondialise, on s'ouvre, on accepte d'être mis en concurrence avec tout le monde, sans comprendre que ce n'est pas la concurrence qui a été un facteur de gain de productivité, c'est les efforts qu'on fait pour s'adapter à la concurrence. Ce qu'ont fait les économies occidentales, c'est s'ouvrir sans faire d'efforts supplémentaires pour s'adapter à la concurrence qu'elles acceptaient. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, là, on aurait dû faire un effort de formation, un effort pour développer nos formations, par exemple. On a, en Corée du Sud, une production de diplômés de l'enseignement supérieur qui, pour les nouvelles générations, dépasse ce qu'on fait aux États-Unis et encore plus en France. Donc on a des pays qui restent des pays moins chers que nous, dans lesquels il y a une main-d'œuvre qui arrive sur le marché du travail, qui est mieux formée que chez nous. Et ça, bien sûr, c'est une erreur qu'on a commise. Et ce n'est pas le capitalisme qui l'a commise. C'est ceux qui
gèrent... Les politiques.
Ces infra... Bien sûr.
Oui, oui.
Il n'y a pas que dans ces domaines.
C'est un très bon exemple, oui.
C'est un exemple.
Vous avez quoi comme autre exemple ?
Mais il y a tous les exemples. Normalement, on doit avoir, dans les pays ultra-développés comme les nôtres, qui se disent avancés, nos infrastructures sociales doivent être en pointe. Autrement dit, notre système judiciaire... Le droit des contrats, la façon dont sont respectés les contrats, la vitesse à laquelle on rend la justice, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les affaires.
Ouais, alors c'est sûr en que
Italie,
la France, c'est pas bien.
En Italie ou en France, en Italie par exemple, il faut des années pour régler un licenciement. Bah forcément, c'est un facteur qui fait que quand on peut éviter d'être en Italie pour un certain type d'activité, bah on le fera. Et donc, dans tous ces domaines, la concurrence aurait dû être un aiguillon pour nous pousser à améliorer la qualité de nos infrastructures sociales en particulier, les infrastructures matérielles aussi. On ne l'a pas fait. Ou en
les
tout
choix.
Cas pas suffisamment.
Ouais, ouais. C'est là où c'est intéressant parce qu'on voit bien le déficit économique, notamment des Français, mais aussi des Européens, par rapport.
Et des Américains.
Et des Américains.
On risque de voir d'ailleurs, à propos de cette épidémie du coronavirus, que les États-Unis ont un système de santé qui ne couvre pas la totalité de la population américaine.
Non.
Et ce que craignent beaucoup actuellement de personnes aux États-Unis, c'est que ceux qui sont mal couverts par la protection, la sécurité, l'assurance santé, eh bien, hésitent à se porter malade, tout simplement parce qu'ils ne seront pas payés ou qu'ils ne peuvent pas se faire examiner gratuitement. Et que du coup, la pandémie, l'épidémie diffuse plus rapidement que ce que normalement on devrait attendre aux États-Unis. Tout ça, c'est lié à la qualité du système de santé et éventuellement à l'inégalité d'accès.
Ouais, très
soin.
Intéressant, je n'avais pas du tout pensé à
c'est cet aspect-là. C'est ce qu'on lit actuellement,
oui,
c'est ce qu'on lit actuellement dans un certain nombre de journaux.
Et puis aujourd'hui c'est le Super Tuesday, donc ça, à mon avis ça va jouer peut-être en faveur des démocrates, c'est intéressant.
Ça, c'est pas sûr que ça joue, mais c'est que la santé, depuis maintenant deux décennies, Hillary Clinton avait été la première à faire des réformes, des plans de réforme de la santé, on n'a pas arrêté, ce qui veut bien dire que dans ce pays, qui est un des pays les plus avancés de la planète, une partie de ce qui devrait faire normalement sa force et qui a été une clé du progrès social, eh bien, continue de poser un problème.
Ouais. Maintenant, là, j'ai envie de dire, parce que vous, c'est de dire sur la productivité. J'ai encore une autre petite question. La division du travail, c'était le fondement même du capitalisme. Hein. Quelle est la place de l'Europe dans cette division du travail ? Parce que la formation, vous l'avez dit, à la limite, ils sont bien meilleurs que nous en Corée ou dans d'autres endroits. Quels sont les atouts de l'Europe ?
Il ne faut pas se tromper. Si tout se faisait dans les pays qui sont moins chers que nous, il n'y aurait plus rien ici et tout serait en Afrique ou dans certaines régions, en Inde, etc. Ce n'est pas le cas. Les infrastructures sociales, c'est quelque chose qui est un facteur d'attractivité. La taille des marchés, le dynamisme des marchés, je parle des marchés de détail, de la consommation, c'est des facteurs d'attractivité. Ils sont insuffisamment, on les entretient insuffisamment. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont effondrés, mais nos atouts, ils sont là.
D'accord.
Et tant qu'on ne les développera pas, eh bien, on s'inquiétera de notre place dans la division du travail. Mais on a encore une place, il ne faut pas se tromper. On n'est pas un pays qui est en régression. On est menacé, effectivement, Mais il faut simplement se réveiller un tout petit peu dans ces domaines.
Le progrès social, je veux dire, c'est pour vous, c'est la, c'est essentiel, y compris pour les, surtout pour le capitalisme. Non, mais quand je dis pour vous, vous en tant que
oui, qu'économiste. Pour le capitalisme, c'est essentiel. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que quand vous regardez, qu'est-ce que le capitalisme a réussi à développer comme production ? Essentiellement la consommation de masse. Qu'est-ce qui fait que le capitalisme s'est pas arrêté à la fin du 19e siècle comme le pensait ou le redoutait ou le souhaitait Karl Marx ? C'est simplement que le capitalisme, au lieu de tourner en boucle et de s'effondrer, de s'asphyxier tout seul, a réussi à trouver un énorme débouché, la consommation. Et aujourd'hui, on produit plus pour la consommation pour que quoi que ce soit d'autre. Et la consommation, c'est quoi ? C'est en partie le confort de notre vie quotidienne. Ouais. C'est en partie l'accès à ces services de santé.
Oui, tout ça, c'est très intéressant et vous mettez bien quelques pendules à l'heure. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant à lire. Capitalisme Merci. Et progrès social, Anton Brander. Et c'est aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Et puis, chef économiste, bien sûr, de Candrien. Merci d'avoir été
Merci à vous.
Avec nous. Justement, vous parliez de soutien en disant plus que de la relance, faut du soutien. C'est Pierre Pellouzet qui est le médiateur national aux entreprises qui est notre invité juste après le journal.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Et le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, merci encore d'être avec nous. Vous sortez de Bercy, beaucoup d'interrogations sur les entreprises, qu'est-ce qu'on peut attendre ? J'ai envie de dire des interrogations sur ce qu'avait annoncé le ministre. Alors on a déjà eu des précisions ce matin avec Nicolas Dufour, le directeur général de BPI, qui nous a un petit peu clarifié en disant rien d'extraordinaire, des mesures qui ont déjà été utilisées. Vous allez nous dire, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Comment vous voyez les choses ? Mais d'abord, est-ce que vous avez des remontées ? Puisque on va quand même rappeler que médiateur, c'est vous qui essayez de faire la médiation entre les entreprises.
Entre les entreprises ou entreprises et administrations, effectivement. Alors, les remontées, c'est plutôt une inquiétude qu'une réalité aujourd'hui. Il commence à y avoir certains secteurs qui remontent des difficultés. De manière générale, notre économie continue à se porter bien. On va voir dans les jours, dans les semaines qui viennent, et c'est pour ça que c'est important de suivre ça au jour le jour. C'était important que toutes les entreprises viennent aujourd'hui à Bercy pour parler à Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, leur donner les premiers retours, suivre la mise en œuvre de tout ce qui a été mis en œuvre et voir l'efficacité au jour le jour de toutes ces actions.
Mais par exemple, vous êtes dans le... on voit dans l'hôtellerie, on voit dans le sport, on voit dans le tourisme, on voit dans la culture, on voit dans l'entertainment, on voit aussi dans des secteurs industriels donc, qui sont... La supply chain vient de Chine, qui a des difficultés. Donc vous, pour l'instant, vous êtes comme à la BPI, vous dites, on ne voit pas trop de choses.
On voit des inquiétudes, mais c'est normal. C'est ça, tout ce que vous décrivez va se passer. Les approvisionnements, vous parlez des approvisionnements de Chine, un bateau il met 45 jours à venir de Chine, donc j'allais dire les bateaux de ce qui a été produit il y a 40 jours ils sont arrivés, maintenant c'est les prochains qui vont commencer à poser des problèmes.
L'intéressant... Et même ceux d'après parce qu'ils sont pris d'assaut.
Et même ceux d'après parce qu'ils vont être pris d'assaut. Donc voilà, on a un mouvement, on a une inquiétude, il faut en tenir compte. Le positionnement qui a été pris, c'est de regarder tout ce qui va impacter surtout la trésorerie, vous le savez, le nerf de la guerre, ce qui fait qu'une entreprise va être défaillante ou pas, c'est est-ce qu'il reste des sous dans la caisse. Donc, tous les éléments étaient regardés. Évidemment, la partie URSSAF, taxes fiscales, avec des étalements possibles. Évidemment, la partie prêt bancaire, on a cité la médiation du crédit, qu'on connaît bien, qui peut aider là-dessus. Moi, il y a un point sur lequel je veux insister, parce que c'est le gros de la trésorerie, c'est les relations avec les clients et les fournisseurs. C'est combien vous doit vos clients et combien vous devez à vos fournisseurs.
Oui, et combien vous doit l'administration.
Et combien vous doit l'administration.
Parce que c'est quand même aussi. Souvent, on sait un énorme problème pour les PME en France.
Absolument, sur les marchés publics. Et nous, notre rôle, c'est de jouer là-dessus. C'est d'être saisi par toutes ces entreprises, petites, moyennes, grandes, qui ont des difficultés à se faire payer par leurs clients, qu'ils soient publics ou privés, on est bien d'accord. Et là, de faire une médiation pour accélérer tout ça, faire prendre en compte que aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant si on se met à payer en retard les fournisseurs. Et je dirais même plus, pour celles qui ont encore les moyens, les grandes entreprises qui sont les plus solides, si elles pouvaient payer un petit peu en avance plutôt qu'en retard, ça serait beaucoup mieux.
Ah bah oui, mais enfin déjà, il faudrait qu'elles payent, un, et puis deux...
Il y en a quand même qui payent,
il faut pas non plus caricaturer. Oui, mais bien sûr, mais c'est quand même... à très très long terme. Et parfois, pour les TPE, des PME, c'est un véritable problème. C'est pas à vous que j'ai expliqué que les délais de paiement, c'est une des premières causes de faillite. Ça reste une des premières causes de faillite.
Ça reste une des premières causes de faillite et ça reste un des facteurs majeurs de la trésorerie de ces entreprises. C'est-à-dire, si on veut une action immédiate, si on veut dire demain, je donne 30 jours de trésorerie aux entreprises, le moyen le plus immédiat, c'est que les grands groupes et les administrations payent plus tôt.
Alors, Pierre Pellouzet, pour ceux qui nous écoutent, donc vous, médiateur des entreprises, créé en 2010, justement, pendant la. Enfin,
absolument.
Au lendemain de la crise, justement.
Oui.
Ça, c'était une bonne invention avec le médiateur du crédit. Vous avez accompagné plus de 20 000 entreprises, oui. Des TPE, des PME. Beaucoup, il y a encore de plus en plus de saisines par mois. C'est j'ai trouvé étonnant en regardant vos chiffres. Je pensais que ça s'améliorait quand même, la conjoncture, alors, et donc les délais de paiement.
Oui, alors il n'y a pas que les délais de paiement. C'est-à-dire que notre champ d'action s'est énormément élargi. On a commencé dans l'industrie, on a ouvert à toutes les entreprises, on a élargi sur les marchés publics, donc vous voyez, tout un nouveau pan d'action. Et maintenant, on ouvre sur toutes les relations publiques-privées. On est en train de tester sur 4 régions. Tout sujet entre une entreprise et une administration, que ce soit fiscal, que ce soit URSSAF, que ce soit social, que ce soit un permis de construire qui est bloqué et qu'on n'arrive pas à débloquer, une aide européenne qui n'arrive pas, un blocage sur la législation environnementale, tous ces sujets-là rentrent dans notre escarcelle.
Guichet unique, quoi, presque, oui.
Pratiquement guichet unique, même si la médiation du crédit existe pour les banques, il reste d'autres médiations. Mais voilà, une entreprise peut nous saisir aujourd'hui sur tous ces sujets-là, ce qui explique aussi que, comme vous le disiez, quand je suis arrivé, on faisait 100 médiations dans l'année, maintenant on fait 100 médiations par mois et ça continue à monter. Ce qui prouve qu'on correspond à un besoin et ce qui prouve qu'on y répond.
C'est pas bon signe. Oui,
mais bien sûr. Je sais pas si c'est pas bon signe.
Ça veut dire que s'il y a de plus en plus de saisines, c'est qu'il y a.
Je crains malheureusement que même avant qu'on existe, les retards de paiement existaient déjà.
Ouais.
La bonne nouvelle, c'est que maintenant il y a une solution et que sur tous ces sujets-là, les entreprises commencent à nous identifier comme étant une solution. Donc je pense que le bon signe, c'est que maintenant les gens réapprennent à se parler et qu'on est là pour les aider à se parler plutôt que de jouer le rapport de force.
Là concrètement, là depuis, depuis une semaine, parce que j'ai envie de dire, on a mis du temps à se dire que ça arrivait, puis finalement c'est arrivé. On a peut-être manqué d'anticipation. Du coup, il y a peut-être une surréaction. On voit bien quand même ici ou là qu'il y a peut-être une surréaction. On verra demain, puisque Bruno Le Maire sera mon invité dans le matin à 8h15. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez là?
Alors aujourd'hui, nous ce qu'on propose, c'est sur tous ces sujets-là. Vous avez un fournisseur, un client ou un fournisseur avec qui vous avez une difficulté. On a parlé de 4 forces majeures. Vous n'arrivez plus à livrer votre client et il va vous mettre des pénalités de retard. Sur tous ces sujets-là, entre vous et un client ou vous et un fournisseur, une seule adresse, médiateurdesentreprises.fr, vous nous saisissez. Il y a des médiateurs partout en France. J'ai la chance d'avoir une 60aine de médiateurs partout sur le territoire. Ils vous rappellent dans les jours qui suivent, c'est gratuit. C'est confidentiel, c'est un service public. Il va, lui, aller chercher la bonne personne de l'autre côté, vous mettre autour de la table ou du téléphone et en quelques jours, trouver une solution. C'est-à-dire vous amener à trouver ensemble une solution qui soit une solution intelligente, une solution co-construite. On n'est pas là pour dire il y a un méchant, un gentil, on ne va pas imposer des choses. On veut que tout le monde puisse se parler, trouver des solutions.
Donc là, on est déjà dans les délais de paiement. Administration, Bruno Le Maire a annoncé qu'il n'y aurait pas de pénalité
absolument,
de retard.
Absolument. Il n'y aura pas de pénalité. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise aujourd'hui qui effectivement attend sa livraison de Chine, la livraison n'arrive pas, elle a peu de chances de pouvoir livrer en temps et en heure son client, qu'il soit public ou privé. Ce que Bruno Le Maire a annoncé, c'est que pour tous les marchés de l'État, il n'y aurait pas de pénalité, on va appliquer une clause de force majeure, comme on dit, il n'y aurait pas de pénalité. Il a demandé aussi à toutes les autres administrations, il a écrit aux maires, aux présidents de départements et de régions, de faire la même chose. Et bien entendu, on demande aussi au monde privé, aux grandes entreprises, de faire la même chose. On sait que ça peut être compliqué, on sait qu'il y a des sujets. N'hésitez pas à saisir le médiateur s'il y a des difficultés dans l'application. Il faut qu'on remplace ce rapport de force, ce rapport contractuel, par un rapport de dialogue, parce que plus on va aller vers la difficulté, plus il va falloir se serrer les coudes.
Justement, est-ce que vous dites aux grandes entreprises, là, c'est il faut supprimer les... Ce que fait l'État, vous pouvez le faire.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Je crois que le premier...
Et là, vous l'avez fait, vous l'avez demandé
bien
déjà.
Bien sûr, on le demande.
Et alors ?
Je l'ai demandé sur vos antennes d'ailleurs aussi.
Ouais.
Je pense qu'il y a une intelligence, il y a une compréhension, mais je crois qu'il faut quand même rappeler et marteler ce message. Le premier réflexe, si un fournisseur ne vous fournit pas, c'est pas de lui envoyer des pénalités, parce que vous allez l'enfoncer dans la difficulté, c'est au contraire de s'asseoir avec lui, de parler, d'essayer de comprendre les difficultés, de voir comment on peut partager ces difficultés, de peut-être replanifier les choses de manière à en sortir gagnant-gagnant par le haut, plutôt qu'un gagnant et un perdant, et de toute façon, au final, tout le monde va perdre.
Ouais. Là, vous me disiez, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment de retombées, mais malgré tout, est-ce que c'est plutôt en province, c'est plutôt dans l'Île-de-France, c'est plutôt parce que il y a beaucoup de sites industriels hein, qui
sûr.
Se retrouvent, enfin, il n'y en a pas suffisamment, on en parle souvent ici, mais il y a quand même des sites industriels en province qui sont peut-être très éloignés.
Il y a effectivement l'industrie en général, et comme je vous le disais, plus à ce stade une inquiétude, c'est-à-dire on n'est pas saisi en médiation, on a deux boutons sur notre site, hein, questionner le médiateur et saisir le médiateur. C'est plus le bouton questionner le médiateur qui est qu'est-ce qui va arriver si mon client met des pénalités de retard, qu'est-ce que je dois faire? Si mon client ne me paye pas, qu'est-ce que je dois faire? On n'est pas encore dans l'accroissement des saisines, même si ça risque d'arriver derrière.
Est-ce que vous vous dites, on va sans doute être saisi par des entreprises qui n'étaient pas du tout dans notre spectre? Par exemple, la culture, loisirs, entertainment, le football. Je sais pas, je pense à...
Probablement, voilà. parce que toute annulation a des conséquences sur une chaîne de fournisseurs.
Oui.
Comment on répartit ça? Tous ceux qui avaient prévu du montage, de l'assemblage, des costumes, etc., qui n'hésitent pas à
nous
saisir.
Des mariages, des messes, les fleuristes, je pense que... Enfin,
tous les gens qui ont des fournisseurs, il va y avoir une cascade de choses. Toute relation entre entreprises, n'hésitez pas à nous saisir. Et effectivement, il y a probablement des nouveaux cas qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui vont venir vers nous. On est là pour les accompagner aussi,
qu'elles n'hésitent pas. Oui, mais en même temps, les solutions, elles sont différentes en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment. Oui. Mais aussi du secteur, parce que les rapports ne sont jamais identiques.
Vous savez, les solutions, en général, les gens les ont en tête. Le problème, c'est quoi? C'est d'arriver à ce qu'ils les sortent. Mmh. C'est d'arriver à créer un dialogue. Quand vous mettez deux personnes dans une salle et que vous arrivez à les mettre dans un climat de confiance, ils connaissent des solutions. Ils savent dire, vous savez, ça, finalement, on peut s'arranger. Ça, vous ne me l'avez pas livré cette fois, j'en aurais peut-être besoin dans 15 jours. Cette pièce, je vais l'acheter ailleurs, ce n'est pas grave, mais après, je reviens vers vous. Vous voyez, il y a plein de solutions pratiques. Nous, on est des praticiens de la microéconomie, du quotidien, du jour le jour. Et c'est là-dessus qu'on va trouver une myriade de solutions. Bien sûr, il y a de grandes mesures macroéconomiques. Il y a tout ce qu'on vient de décrire, mais il y a aussi tous ces petits problèmes quotidiens, cette série de petites choses qui peuvent mettre en difficulté une PME, une TPE et un grand groupe, et c'est là-dessus qu'on va agir.
Donc là, on est déjà dans le cas où ça y est, ma commande n'est pas arrivée, je ne peux pas délivrer. Mais ceux qui sont encore à flot, on va dire, vous leur dites quoi? Parce que c'est comment peut-on anticiper?
Alors, anticiper, c'est si on sent qu'il y a un problème, je suis un praticien du dialogue, hein, autant en discuter tout de suite. Nous, on est prêts à accompagner des entreprises en médiation, même si le problème ne sera que dans 15 jours ou dans 3 semaines, il vaut beaucoup mieux être transparent, se parler maintenant, anticiper, plutôt que d'attendre d'être au bord du gouffre pour crier au secours, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, aujourd'hui, on est dans le stade de l'anticipation. Effectivement, il y a encore pas mal de gens qui vont bien, et c'est tant mieux. J'espère qu'ils vont continuer à aller très bien, que ces entreprises vont être florissantes. Mais si vous sentez des difficultés, n'hésitez pas à nous utiliser pour parler à vos fournisseurs, pour parler à vos clients, pour anticiper tout ça. On peut même le faire sur des filières complètes s'il le faut. Ça nous arrive assez régulièrement. Anticiper, c'est sortir par le haut des difficultés plutôt que de plonger dedans.
Non, mais justement, en fait, derrière, j'avais cette question que vous venez un tout petit peu dont vous venez un peu de soulever le voile. C'est de raisonner par filière. C'est-à-dire, c'est de dire aux entreprises, je ne sais pas, une PME, une TPE qui avait son fournisseur qui ne peut pas livrer pour X raisons, et de lui dire, mais il y en a d'autres.
Oui.
Vous savez,
oui,
nous, on peut vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut-être momentanément vous fournir. Or, souvent, on travaille tous avec les mêmes fournisseurs.
Oui.
Donc là, est-ce que vous intervenez aussi?
Oui, on travaille beaucoup par filière. On travaille dans la filière du ferroviaire, par exemple. On travaille avec le BTP, bâtiment construction. Voilà, on a tout un tas de filières avec lesquelles on travaille. Et effectivement, l'enjeu, c'est ça. C'est de mettre tous les acteurs autour de la table et de dire, on a des problèmes communs. Comment on s'en sort tous ensemble? Et là, je pense que sur un cas comme celui qui est en train de nous arriver, ces médiations de filière, comme on dit, vont avoir une importance particulière et que, là aussi, je lance un appel aux fédérations, qu'elles n'hésitent pas, elles nous connaissent bien, mais à nous saisir pour les aider, les accompagner aussi sur ces sujets de filière.
Est-ce que vous n'avez pas, à l'inverse, des filières qui sont en train d'exploser, la filière des masques, des produits alcooliques?
Oui.
Donc, les entreprises qui n'arrivent pas à suivre. Donc là, c'est un problème de surchauffe. À ce moment-là, c'est une gestion très différente.
Oui. Oui, oui.
Vous êtes confronté à ce cas-là en ce moment?
Alors, non. Je dois dire que les entreprises qui ont trop de commandes ont moins tendance à venir nous saisir que les entreprises qui n'en ont plus.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Raisonnement par filière.
On a tout à fait. Ce raisonnement de filière doit jouer sur les deux. Je suis d'accord avec vous. Sur les surcroît de commandes comme sur les défaillances de commandes, il faut qu'on arrive à harmoniser tout ça.
Si on essaie de voir sur les délais de paiement, comment peut-on œuvrer. J'ai l'impression que depuis que je fais du journalisme, on entend parler des délais de paiement.
Alors, on a eu heureusement de l'amélioration, hein, puisque il y a quelques années, on était, là je pars sur les grandes statistiques, à 14 jours de retard, puis on est passé à 13, 12, 11, 10. On a une espèce de plafond de verre maintenant. 10 jours de retard, c'est terrible. C'est quasiment 10 milliards d'euros qui devraient être dans les caisses des TPE-PME et qui restent dans les caisses de leurs grands clients. Beaucoup de choses ont été faites. On a vu le name and shame, on a vu les lois, les pénalités. Nous, on agit beaucoup, évidemment, en médiation là-dessus. On a aussi des chartes de bonne pratique qui parlent notamment de délais de paiement.
Mais sur le name and shame, est-ce qu'il faut aller plus loin ?
Aller plus loin, qu'est-ce que vous entendez par là,
Je ne sais pas, avoir des sanctions, avoir des...
Alors, il y a des sanctions.
Il y a des sanctions, mais qui sont...
Les sanctions qui ont été montées à 2 millions d'euros, donc les sanctions sont quand même assez conséquentes. Le name and shame, maintenant, est public, publié. La loi même prévoit qu'on le prévoit dans les journaux. Je crois qu'on a fait le maximum là-dessus et que ça a un impact. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, qui sont sanctionnées, se posent vraiment la question... C'est dommage qu'elle ne soit pas posée avant, mais c'est comme ça. Nous, ce qu'on constate, on a des chiffres là-dessus. On constate, on fait un baromètre, une facture sur 6 qui est envoyée par une PME à un grand groupe, une sur 6, reste bloquée dans le système de contrôle du grand groupe. C'est-à-dire qu'on a mis des systèmes merveilleux, informatisés, etc., etc., qui ont comme conséquence de bloquer les factures. Et c'est là où je dis aux entreprises, penchez-vous là-dessus, si c'était le système industriel, s'il y avait une pièce sur 6 qui partait au rebut.
La bureaucratie,
tout ce qu'on veut, mais voilà. Et le deuxième chiffre qui est terrible, c'est que pour débloquer cette facture, il faut en moyenne 50 jours. Donc là, on a un processus. Et j'engage tous les grands dirigeants de notre pays à se pencher là-dessus maintenant et à dire, est-ce que mon processus est défaillant ou pas ? Avec les chiffres que je vous donne, il l'est probablement. Si c'était un processus industriel qui donnait les mêmes résultats, je peux vous dire que tous les comex de la Terre s'en emparerait. Là, on est sur un processus dont les conséquences sont chez le fournisseur. Ça intéresse un petit peu moins. Il est peut-être temps de s'y intéresser.
Est-ce que vous... Est-ce que les entreprises sont réceptives ?
Oui, heureusement.
Ou alors, elle dit, voilà, c'est l'emmerdeur qui débarque, c'est le médiateur qui...
On a le droit aussi d'avoir un petit rôle d'emmerdeur, vous avez raison, et il le faut, parce que parfois, il y a des sujets qu'il faut porter. Ceci étant, pour être très transparent, oui, les entreprises commencent à se saisir de ça. Je vous dis, on a une charte de bonne pratique, on a un label, on voit de plus en plus d'entreprises qui viennent, mais c'est trop lent. À mon sens, c'est-à-dire que vu les enjeux et encore plus ce qui nous arrive, je pense qu'il est temps, c'est le moment d'accélérer, de penser intelligent, de penser solidaire et de penser que les victimes seront aussi ces grands groupes, parce que s'ils perdent leurs fournisseurs, il n'y aura plus de fournisseurs derrière, il n'y aura plus de pièces.
Est-ce que cette médiation, elle est nationale ?
Oui, bien sûr.
Non, mais quand on dit bien sûr, aujourd'hui, il y a quand
Alors,
même...
nationale et internationale, si c'était votre question.
Oui, voilà, c'était ma question, parce que surtout en ce moment, on peut avoir des fournisseurs qui sont en Chine, un peu partout, en Asie du Sud-Est, ailleurs. Bref...
On a la chance d'avoir, alors, mes médiateurs, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, on a une trentaine de très bons médiateurs qui sont en régions qui sont dans les effectifs de l'administration, ce qu'on appelle les directs. On a aussi une trentaine de médiateurs à Paris qui sont des bénévoles retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens cadres dirigeants. Pourquoi je précise ça ? Parce que ce sont, pour beaucoup d'entre eux, des gens qui ont eu un vécu à l'international, qui ont dirigé des entreprises au niveau mondial, donc qui sont tout à fait capables de mener une médiation à l'international, et on en fait. On n'en fait pas encore beaucoup, mais ça fait partie des services qu'on peut offrir. Si vous avez un problème avec une entreprise étrangère...
Parce que recouvrir une...
Bien sûr.
Ou se faire payer,
comprendre. Hein. Si on ne peut pas livrer, aussi, on a aussi le problème des pénalités qui vont jouer sur des livraisons à l'international. Donc là aussi, on peut vous accompagner. Il se trouve que la médiation est souvent plus connue dans certains pays, les pays anglo-saxons, les pays nordiques. Quand vous leur dites médiation, ils voient très bien de quoi on parle. En France, ça progresse, mais on n'y est pas encore à 100%.
Non, c'est pas dans notre culture.
Voilà, c'est pas dans notre culture. Ça y vient, j'espère.
On n'aime pas ouvrir les portes. Enfin, on avait déjà eu l'occasion d'en parler à Pierre Pellouzet.
Absolument. Donc ça progresse bien, mais voilà. Donc n'hésitez pas là aussi sur l'international. On peut vous accompagner si vous avez des sujets.
Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises françaises sont quand même en bien meilleure santé. Même s'il y a l'aspect crédit, là, c'est le médiateur du crédit, mais quand même en bien meilleure santé, est-ce qu'elles sont prêtes à affronter à ce choc qu'on est en train de vivre ?
J'allais dire, j'ai pas la boule de cristal, c'est-à-dire si ce choc dure quelques semaines, oui, si ce choc dure plus que ça, plusieurs mois, etc., je ne sais pas vous dire. Peut-être que Bruno Le Maire, que vous recevrez demain matin, aura plus de prospectives là-dessus.
Oui, enfin, c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises elles vont mieux qu'en 2010 ? Elles sont plutôt en bonne santé,
absolument,
non ?
Absolument, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Certaines ont quand même été affectées par les gilets jaunes, certaines ont été affectées par les transports. Donc, même si... En général, elles vont bien mieux. Il y en a qui sont un peu fragilisées. Et c'est pour ça que cette idée de les soutenir, et comme je disais, de solidarité économique entre les grands et les petits, il faut être vigilant avec qui on travaille. Une facture n'en vaut pas une autre. Certaines factures, vous les payez à 60 jours, il n'y a pas de problème, l'entreprise en face, elle est rein-solide. D'autres factures, il vaut mieux les payer à 30 ou à 15, parce que là, il y a quelqu'un en face qui est déjà en situation de fragilité.
Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu aussi le fonctionnement des tribunaux de commerce, sans rentrer trop dans le détail, mais justement, pour aider les entreprises, appuyer les entreprises?
Les tribunaux de commerce ont évidemment toute leur utilité, elles font notamment de la prévention. Il ne faut pas aussi hésiter à les consulter quand on est en difficulté, mais le tribunal de commerce, j'allais dire, avant d'aller au tribunal de commerce, venez en médiation. Dans les trois quarts des cas, ça marche. Et j'allais dire, ensuite, si ça n'a pas marché, saisissons le tribunal de commerce et allons plus loin. Mais essayons d'abord une solution rapide et confidentielle avant d'aller plus loin.
Merci beaucoup, on a compris le message. Hein, Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Vous avez
merci
rappelé le site
médiateurdesentreprises.fr.
Voilà, les deux boutons, vous voyez lequel vous voulez saisir.
Saisir le médiateur ou poser une question. On répondra dans les deux cas sous 7 jours maximum.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve donc demain matin à 8h15 avec notre invité, vous l'avez dit, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Beaucoup de questions à lui poser. En plus, il y a cette réunion téléphonique tout à l'heure du G7 pour savoir un peu comment mettre en place une solution, s'il le faut, au niveau international. Et il répondra donc à mes questions. Et puis, on se retrouve bien sûr pour le RH 12h-13h. D'ici là, très bonne journée.